Alors, mes débatteurs aujourd'hui pour ce débrief spécial Forum InCyber, je vous les présente tout de suite. Guillaume Tissier, bonjour, merci de nous accueillir. Accueillir doublement parce que vous êtes le directeur général de ce forum qui se passe bien.
Très bien.
Il y a un monde incroyable sur cette édition.
Oui, il y a effectivement un peu plus de monde que l'année dernière.
Ouais. Tariq Rim est également avec nous, fondateur de Cybernetica. Bonjour Tariq.
Bonjour Delphine.
Merci d'être régulièrement dans Smartech. Et puis Karine Bannelier, très heureuse de vous recevoir Karine. Vous êtes directrice du Grenoble-Alpes Cyber Security Institute, Cyber-Alpes pour faire court. Bienvenue à vous. Vous allez nous parler en l'occurrence de cette question cruciale, la coopération internationale dans le domaine de la cybersécurité. Mais avant, je voulais qu'on revienne sur ces grands sujets qui font la cybersécurité avec une année un peu particulière, électorale, les Jeux Olympiques qu'on attend sur Paris pour cet été. Ça fait quand même beaucoup de défis à relever en matière de cybersécurité. Et je me demandais si ce n'était pas aussi une grosse pression pour l'écosystème, Guillaume.
Bah, effectivement, à la fois le contexte géopolitique et puis les JO vont nous mettre à l'épreuve, clairement. Alors, on s'est préparé. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une concentration de facteurs de risque liés à l'intensité en matière de communication, évidemment, sur cet événement, liés à la multiplicité des systèmes et la diversité des technologies, à la multiplicité des acteurs concernés aussi. Alors, comme je le disais, on s'est préparé, c'est-à-dire que ça fait quand même déjà plusieurs années que certains travaillent. On a fait beaucoup d'analyses de risque en amont. Tout un dispositif a été mis en place avec également des acteurs privés, des scénarios de risque ont été...
Ouais, c'est ça, j'allais dire, mais on se prépare à quoi ? Est-ce qu'on sait à quoi on doit s'attendre ?
Alors, on s'est préparé par rapport à des scénarios. Maintenant, c'est souvent, évidemment, une combinaison de ces scénarios qui arrivent. On s'est préparé à de l'activisme, ça, c'est évident. Ouais. On a eu des démonstrations, d'ailleurs, ces derniers jours, avec des actions, sans doute, en déni de service. On s'est préparé aussi à des actions plus graves, qui peuvent être des actions même de sabotage. Hein. On a vu dans des JO précédents, à Londres en 2012, par exemple, ce qui a pu se passer au deuxième jour avec, pendant 40 minutes, une perturbation du système d'alimentation électrique. On a eu également de la cybercriminalité avec des sites de hameçonnage, avec des ventes de faux jetons officiels, des choses comme ça. Donc on a voilà, une large diversité de menaces qui appellent évidemment des actions de protection, de prévention. Donc toute une gouvernance a été mise en place. Il y a un budget aussi sécurité, et on en a parlé puisque le RSSI des JO était là ce matin. Il faut être vigilant. Alors, je pense que la peur n'est pas forcément bonne conseillère. Donc, il faut être vigilant, je crois que c'est le terme.
Et puis, c'est un événement international. Donc, il n'y a pas uniquement la France qui va être mobilisée sur cette question. Karine Bannelier, ça pose des questions. Là aussi, c'est un peu un vrai ballon d'essai en matière de cybersécurité géré au niveau international.
Oui, effectivement, on peut et on sait d'ailleurs qu'il y a une collaboration très forte actuellement entre les États pour la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. Donc, sans doute une collaboration entre les autorités de police et de justice, aussi une collaboration entre les services de renseignement de différents États pour s'assurer que cet événement se passe au mieux.
Alors, Marie-Laure Denis est venue ici sur ce forum InCyber, donc la présidente de la CNIL, nous dire qu'il fallait appeler la cybersécurité comme une grande cause nationale. Vous la rejoignez sur ce point, Tariq Rim ?
Je pense que tous les experts de la cybersécurité savent depuis très longtemps que c'est un des sujets dominants. Mais ce qui est nouveau, et je pense que l'année 2024 sera peut-être l'année où on sort d'une certaine ambiguïté, c'est-à-dire que finalement, on avait la cybercriminalité, on avait les questions d'État. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est passé de la dualité où le mode opératoire militaire et le mode opératoire d'attaque civile étaient séparés à une hybridité où désormais, finalement, les mêmes réseaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les plateformes Internet, que ce soit les sites, se retrouvent à la fois, comme tu l'expliquais, face à des activistes, face à des opérations de politique intérieure, face à des criminels, mais également face à des États. Et donc, on se retrouve avec une menace qui est très diversifiée, oui, mais avec des canaux qui sont les mêmes. La désinformation, avec l'utilisation des deepfakes, peut être utilisée à des fins civiles ou militaires. Ce sont les mêmes qui les utilisent. Et donc, il y a effectivement une nouvelle complexité. C'est vrai que les spécialistes du domaine doivent désormais identifier quel type de menace, quel type d'acteur. Parce qu'évidemment, on ne réfléchit pas de la même manière avec des acteurs de type étatique et de simples cybercriminels à la recherche de profits.
On a aussi Vincent Strubel de l'ANSSI qui nous dit que c'est un test inédit. Donc voilà, tout ça, ça fait quand même, ça pèse lourd, j'imagine, quand même sur les épaules de l'écosystème qui est là rassemblé aujourd'hui au Forum InCyber.
Clairement, l'écosystème est mobilisé, donc ça c'est le côté positif, c'est-à-dire que je pense que avoir des moments comme ça d'intensité, ça permet d'éprouver le dispositif. Il y a eu beaucoup d'entraînement en amont, ce qu'il faut dire, et je crois que l'entraînement est un sujet absolument essentiel. Quand on a une situation de crise à gérer, évidemment, mieux vaut être préparé, mieux vaut avoir des procédures. Et le point important, et Vincent Strubel le disait, c'est aussi la scalabilité du dispositif, c'est-à-dire que, et c'est toute la difficulté, c'est de pouvoir monter le dispositif escalader, comme on dit, de façon à pouvoir répondre finalement à un incident, à deux incidents, et puis peut-être on aura des pics avec beaucoup d'incidents.
Et peut-être avec des fausses alertes. On a vu là ce qui se passe par exemple dans les lycées avec bon, quand même les espaces numériques de travail qui ont été piratés, des usurpations d'identité, des alertes, des fausses alertes, des vraies alertes, on ne sait pas, mais tout le temps, tout ce temps finalement où l'on se mobilise sur ces attaques.
C'est là qu'elle est la difficulté.
On ne mobilise pas peut-être là où il faudrait.
Il peut y avoir de la diversion.
Ouais. C'est ça.
Et clairement, le sujet, c'est d'arriver à trier. Et ça, c'est le travail formidable qui est fait au quotidien par notamment tous les gens qui font de la supervision de sécurité, qui consiste à aiguiller, à recueillir les incidents et ensuite à détecter parmi ces incidents. Alors, on est aidé, heureusement, par l'IA de plus en plus, mais tout ne se fait pas automatiquement. Et là, le sujet, ça sera effectivement de s'assurer qu'il n'y a pas dans tous ces incidents l'incident qui aura les conséquences les plus importantes, qui sera peut-être cachée parmi d'autres, volontairement d'ailleurs.
Alors, on va parler justement de cybersécurité et d'intelligence artificielle. Pourquoi on parle d'IA ici ? Parce que c'est le mot à la mode en ce moment, ou vraiment c'est un nouveau défi qui s'impose ? Parce que l'IA dans la cybersécurité, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle, mais il s'est passé des choses quand même nouvelles, les IA génératives, une grosse accélération dans les usages. Qu'est-ce que ça pose comme nouvelle question en matière de cybersécurité ? Tariq ?
En matière de cybersécurité et en matière généralement de plus général, ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est qu'on amplifie le travail des développeurs. Désormais, on peut écrire du code aidé par une IA, on peut trouver des vulnérabilités aidées par une IA. Donc, il y a cette amplification du savoir. Il y a les deepfakes, il y a un ensemble de choses qui font que finalement, l'état de la menace est beaucoup plus important, puisque désormais, petit groupe de gens aider des bonnes technologies peut en fait avoir autant d'effet que des gens mieux financés, plus nombreux il y a quelques années. Donc il y a un vrai sujet. Alors ce qui est vrai dans la productivité d'un point de vue général est aussi vrai dans la productivité en termes de cybercriminalité. Donc effectivement, c'est un risque. Ça veut dire aussi, et c'est l'espoir, que de l'autre côté, on aura du côté des gens qui défendent ces plateformes, l'idée c'est que cette technologie puisse les aider évidemment à naviguer à travers un nombre de plus en plus important d'attaques, avec le risque qui était soulevé par Guillaume, qui est les trous dans la raquette qui peuvent être effectivement très dommageables.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut réinventer des choses en matière de cyber, là, l'arrivée, cette utilisation finalement massive de l'IA est très simple entre les mains de tout le monde ?
Il faut que les experts de chaque côté fassent un pas l'un vers l'autre. On a peut-être des communautés qui sont encore un peu trop séparées.
On ne se parle pas beaucoup entre cyber et experts de la cyber et experts d'intelligence artificielle.
Il y a déjà de l'IA, comme on le disait, dans la cybersécurité depuis assez longtemps. C'est clair que l'IA générative, c'est encore une vague supplémentaire. Aujourd'hui, on observe effectivement un début de prise de conscience, je pense, sur le fait que ces usages de l'IA générative, si on n'intègre pas de la sécurité, à un moment ou à un autre, il y aura un problème de confiance. On a vu ce matin, par exemple, le témoignage de Mitril Security, qui justement est là pour fournir des IA sécurisées, garantissant notamment la sécurité des données qui sont injectées dans les IA. Et donc, ce mariage, je pense, est assez indispensable.
C'est toujours difficile. Quand on est dans une course à l'innovation, on n'a pas forcément envie tout de suite de se freiner avec de nouvelles contraintes, notamment cyber, c'est ça ?
Certes, mais en même temps, ce n'est pas une option, je pense, parce que la confiance sera à ce prix-là. Et on a besoin besoin de confiance. Donc ensuite, c'est la technologie est toujours de toute façon alliée et ennemie. Alliée parce que l'IA permet d'automatiser, d'améliorer la détection, de faire plein de choses. Et puis c'est l'IA potentiellement ennemie, au sens où, alors d'une part, il y a le shadow IA qui s'installe petit à petit dans les entreprises, qui peut, s'il n'est pas maîtrisé, utilisés, porter des vrais risques. Hein. On a des exemples de fuites de données générées par des déploiements d'IA individuels, quelque part, mal maîtrisés. Hein. Tout un chacun qui utilise ChatGPT dans son contexte professionnel peut faire porter des risques, notamment s'il exporte des données à l'extérieur. Et puis après, c'est effectivement l'IA utilisée par les attaquants. C'est les attaquants visant spécifiquement les IA. Donc c'est effectivement très ambivalent.
Tariq, vous vouliez réagir ?
Plus généralement, on a beaucoup parlé de souveraineté numérique et aujourd'hui, un des nouveaux sujets qui va émerger, c'est la question de l'autonomie cognitive. C'est-à-dire finalement, si on déporte une partie de notre capacité à réfléchir sur les machines, qui les produit ? C'est toujours la même question. Qui les produit ? Comment ? Est-ce qu'on n'est pas dans les enfermements cognitifs ? Est-ce qu'on n'est pas dans la désinformation de masse ? Et donc, énormément de sujets. Et c'est vrai qu'on a cette période très bizarre, ambivalente, où on est à la fois au cœur d'une nouvelle révolution, comme l'a été le cloud, comme l'a été le web. Et en même temps, on est au cœur d'une crise géopolitique majeure et on se pose à chaque fois la question. Vous vous rappelez, quand le web a démarré, c'était que du positif. Et aujourd'hui, l'IA n'a à peine commencé, l'IA générative, son début de chemin, que pour l'instant, on ne parle d'extinction de l'humanité, de désinformation, de deepfake. Donc il y a un narratif
mais
différent.
Ça, c'est depuis les débuts de l'intelligence artificielle, presque, j'ai envie de dire. C'est peut-être du fait du nom qu'on lui a donné aussi à cette...
Il y a ça, mais il y a aussi un contexte.
Intelligence
c'est-à-dire que
technologique.
Des années après, on l'a dit, la moitié de la planète va voter. Donc, des années après les élections américaines, le Brexit, l'utilisation de technologies, finalement, beaucoup plus sommaires que celles que l'on a à sa disposition. Quand vous regardez Sora, les capacités de générer des vidéos deepfakes en haute résolution, de la propagande haute fidélité en temps réel, on se pose beaucoup de questions et je pense que les gens ont raison de se les poser. Maintenant, il faut voir effectivement quels seront les... Il faut éduquer les gens et je crois qu'on le disait tout à l'heure, ce qui est critique, c'est que des acteurs qui jusqu'à maintenant ne se parlaient pas, que ce soit le monde militaire, le monde de l'entreprise, le monde de la cyber, le monde de l'IA, doivent évidemment collaborer.
Et le monde politique aussi. Alors Thierry Breton a ouvert ce forum et il nous dit que finalement, aujourd'hui, en Europe, on a des armes pour répondre à cette révolution qui est l'intelligence artificielle, notamment les supercalculateurs et l'AI-Act, donc le règlement européen qui doit nous protéger. Karine Vanelli.
Alors, en effet, et l'Union européenne, finalement, les Européens sont finalement connus sur la scène internationale pour leur capacité à encadrer, à réguler les nouvelles technologies. C'est ce que nous avons fait déjà sur la protection des données personnelles, ce qui a été un levier extraordinaire sur la scène internationale pour la montée en puissance de l'Union européenne comme un modèle dans ce domaine-là. Nous l'avons fait ensuite à travers la protection des infrastructures critiques, notamment dans le domaine de la cybersécurité, avec NIS, et puis NIS 2, la directive NIS 2, là, qui va être implémentée en France au mois d'octobre 2024. Et derrière, on a AI-Act. Donc, on a un cercle qui peut sembler vertueux en Europe de régulation, d'encadrement de ces technologies, cybersécurité, données et intelligence artificielle.
Vous nous dites qui peut sembler ?
Qui peut sembler, puisqu'on connaît aussi les détracteurs qui pensent que peut-être que l'Europe régule trop, qu'elle encadre trop et qu'il y a peut-être ici un frein à la compétitivité, à l'innovation. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre nécessité de régulation et puis compétition et innovation.
C'est peut-être pour ça que Thierry Breton, quand même, a parlé aussi de la puissance de calcul, pas seulement des règlements.
Oui,
Guillaume.
Il a effectivement parlé finalement de ce qui compose la puissance à l'ère de l'IA. Et on sait que l'IA, il y a quand même il y a des facteurs de concentration, hein, la disponibilité des GPU, 80% du marché pour Nvidia, quand même, il faut le dire. Il y a l'accès donc à tout cela. Il y a évidemment aussi la partie infrastructure. Il ne suffit pas d'avoir des très bons moteurs, il faut aussi pouvoir les héberger sur des infrastructures. Et donc, on pense quand même, pour rejoindre le sujet que Tariq abordait sur la souveraineté, à l'ère de l'IA, clairement, on a des risques supplémentaires et une dépendance accrue de ce fait-là.
Tariq.
Sur ces questions, il y a deux questions à se poser. En fait, la première, c'est quels sont les business models sur lesquels on peut se positionner. Alors aujourd'hui, la question des puces, c'est un vrai sujet. Donc la fabrication, c'est le premier problème. La deuxième, c'est l'accès à ces puces. Les dernières puces de toute dernière génération qui ont été annoncées il y a quelques semaines sont déjà chez Amazon, chez Google, chez les grands groupes. On a deux acteurs, on a SAP, je crois, en Europe, mais ça va être très difficile de se procurer ces puces. Et puis, un avantage aussi important, c'est que l'IA générative ne s'appuie pas sur des données, mais sur de la culture, sur des éléments culturels. Et l'Europe est un paradis culturel, d'une certaine manière, et donc il va falloir trouver une manière de transformer toute cette valeur économique et culturelle grâce à l'IA et ne pas être simplement un fournisseur de matières premières à des plateformes qui vont faire des profits ailleurs parce qu'elles auront finalement
C'est-à-dire
l'ensemble
que,
de la...
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ?
Il y a déjà des initiatives en Europe, notamment pour remplacer les droits d'auteur avec des outils d'IA qui respectent le droit d'auteur, qui sont en train de mise en place. Il y a aussi l'accès à des puissances de calcul, parce que c'est vrai qu'une entreprise comme Microsoft peut investir énormément d'argent pour avoir toutes les puces, et nous, ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Mais attention, il faut faire attention aussi que cette puissance de calcul soit offerte aussi à tous les innovateurs et qu'on ne se retrouve pas qu'avec toujours les mêmes qui ont accès à ces choses. Ce qui est intéressant dans l'IA, c'est que dès qu'on a accès aux données, à la puissance de calcul, on peut inventer des nouvelles choses. Et là, c'est vrai que pour l'instant, en Europe, ce n'est pas tellement une question de compétences, mais plutôt d'accès aux ressources qui nous bloquent.
Et Karine, vous vous intéressez à cette question de la coopération internationale, mais qu'en est-il déjà de la coopération européenne entre les États membres ?
On pourrait dire quand même que la coopération européenne semble réussie, puisque nous avons été capables en Europe d'adopter ces directives, ce règlement sur la protection des données, ces directives NIS 1 et NIS 2, maintenant l'IACT. Donc il y a une réelle coopération entre les États européens, avec sans doute, je pense, des leaders, et notamment la France, qui est manifestement un leader en matière de cybersécurité et de régulation, mais avec aussi cette capacité, parce que je pense que c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a quand même des niveaux de capacité entre les États européens qui sont quand même très différents. Et donc, il faut arriver à entraîner ces pays sur le meilleur niveau de régulation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, mais que la France est arrivée, je trouve, à faire à travers notamment NIS 2.
Et alors, si on passe vraiment à l'échelle internationale, c'est l'autre sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Comment ça s'organise aujourd'hui entre les services de police, les autorités judiciaires, pour qu'on arrive à combattre le cybercrime à l'échelle à laquelle il est, en fait, hein, à l'échelle mondiale ?
Là, ça devient extrêmement difficile et très politique. Alors, on peut le faire dans un cadre régional lorsque les États ont finalement des fondements communs. Et c'est ce qu'on réussit très bien à faire dans le cadre de la Convention de Budapest, qui est la Convention du Conseil de l'Europe, où là, tous les États européens sont partis à cette Convention contre la cybercriminalité, mais aussi d'autres États, hein, occidentaux, les États-Unis, le Japon, l'Australie, le Canada, mais avec des bases communes. Et là, il y a une formidable coopération et aussi d'Europol. Ensuite, si on veut monter sur le niveau universel, là, les choses deviennent extrêmement complexes, puisque nous avons la Russie, nous avons la Chine, qui veulent combattre le modèle de protection des droits de l'homme européen et qui peuvent essayer d'utiliser cette lutte contre la criminalité internationale pour essayer d'avancer d'autres modèles qui ne sont pas compatibles avec nos propres protections des droits de l'homme.
Guillaume Tissier.
On peut citer un exemple de coopération réussie très récente, hein, c'est l'opération Chronos en février, Europol, une dizaine de services de police et de gendarmerie à travers le monde. On a abouti, enfin il y a eu deux arrestations, 34 serveurs saisis et des serveurs importants, notamment le MUR, hein, où le groupe Lockbit publiait évidemment tous ces méfaits. 200 portefeuilles de crypto-monnaies saisis. Et donc ça, c'est une réussite vraiment récente et qui montre bien que la coopération, lorsqu'elle fonctionne, permet de compenser quelque part l'asymétrie dont on parle toujours entre l'attaquant et le défenseur. Le défenseur qui connaît des frontières, qui a des règles juridiques, avec des cloisonnements évidemment entre les pays, et un attaquant qui, lui, ne connaît pas les frontières, coopère facilement, ne s'embarrasse d'aucune règle. Et donc, la seule solution pour finalement compenser cette asymétrie, c'est la coopération.
Alors, effectivement, c'est Jean-Philippe Lecouf qui est venu sur le forum parler de cette opération réussie notamment. Il y en a une autre, moi, que j'avais relevée, donc c'est cette réussite aussi, mais du côté plus anglo-saxon, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, hein, qui ont fait un front commun pour accuser la Chine, et en l'occurrence les groupes APT31 et APT40, sur la prolifération, en fait, de cyberattaques visant à faire de l'espionnage, l'espionnage donc économique, géopolitique. Pourquoi on retrouve ces trois États ensemble sur ce sujet ? Pourquoi l'Europe n'y figure pas ? Des réponses, Karine ?
Alors, il y a déjà la problématique des Five Eyes, donc de pays qui ont des services communs en termes de partage de renseignements. Et donc, attribuer des cyberattaques, même s'il s'agit d'espionnage, il faut vraiment avoir une communauté et un désir commun à ce moment-là de faire l'attribution. Donc il y a vraiment sur le plan politique, il faut être extrêmement bien aligné et avoir une grande confiance sur les preuves qui ont pu être apportées. Donc ça, c'est un point. Mais ceci étant dit, ça ne signifie pas que le reste des États européens ne partagent pas ces attributions de façon informelle. Et effectivement, nous avons ici un énorme enjeu avec la Chine et la question du cyberespionnage.
Tarek Rim.
Oui, comme je le disais l'année dernière ici dans ce forum, l'Internet est en train de se fragmenter, oui. Avec d'un côté un espace des démocraties libérales, avec les États-Unis qui chapeautent tout cela, et de l'autre côté un nouvel Internet des dictateurs avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, et la liste va sûrement s'allonger, avec cette protection qui est faite. Vous savez que aucune des grandes entreprises américaines ou européennes n'a accès au marché chinois, alors que TikTok, Temu, qui est l'équivalent maintenant de TikTok, mais en utilisant le e-commerce plutôt que les vidéos, ont accès et donc travaillent cognitivement ces populations. Et c'est également le cas sur les attaques cyber, l'espionnage. C'est que d'une certaine manière, on veut garder un Internet ouvert, puisque l'Internet a été créé pour ça. Et on a des pays qui non seulement ont fermé leur Internet aux autres, mais utilisent évidemment à mauvais escient cette ouverture. Et donc la vraie question qui se pose, c'est, on le voit avec le débat aux États-Unis sur la potentielle, pas fermeture de TikTok, mais en tout cas, on parle...
Peut-être un rachat.
Un rachat.
Oui.
Se pose vraiment la question ensuite de savoir quels sont les acteurs, sachant qu'il va falloir à un moment donné aussi sortir de naïveté. Quand des acteurs sont présents, ils le sont pour du commerce, souvent pour l'espionnage et évidemment aussi pour les opérations politiques. Et donc, malheureusement, l'Internet tel qu'on l'a connu n'existe plus. Et la question qu'on doit se poser, qui est la seule question qu'on doit se poser, c'est comment protéger notre Internet ouvert public, notre démocratie libérale, sans utiliser, sans devenir les gens que l'on critique, qui ont tout fermé, où la liberté n'existe plus, les droits de l'homme, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Et là, trouver les bonnes réponses, elles ne sont pas que réglementaires. C'est vrai qu'on a ce tropisme en Europe. Ça va être un enjeu important de la décennie qui vient.
Alors, on est sur le sujet de la maîtrise technologique, de ce qu'on appelle la souveraineté numérique européenne. En matière de cybersécurité, elle existe un petit peu, cette souveraineté européenne ?
On a quand même une filière, je pense, d'excellence. Et le salon le montre bien. C'est un salon qui est ouvert, donc il y a beaucoup d'entreprises aussi, évidemment, d'autres pays européens, voire Europe. Mais on voit quand même la présence à travers, par exemple, le groupement Exatrust et toutes les startups qui sont également là dans le pavillon innovation, un dynamisme important. Et je pense que c'est essentiel. Alors, c'est deux sujets différents, hein, sécurité et souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a bien d'un côté à la fois l'urgence opérationnelle liée à la sécurité. Et puis de l'autre, cette aspiration à une souveraineté, mais qui en revanche est nécessairement partagée, je pense. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'à un moment ou à un autre, il y a des limites. Il y a des limites liées au marché. On en a parlé, mais le marché européen reste un marché très fragmenté au plan économique. Typiquement, un éditeur de cybersécurité français, lorsqu'il va exporter en Allemagne, va devoir repasser des certifications. Ça, c'est une barrière. Alors, on avait pourtant mis en place et l'Europe avait travaillé sur quelque chose, mais qui a priori ne fonctionne pas. En tout cas, c'est le retour que nous avons. Donc il y a un vrai travail sur les marchés déjà à structurer. Et ensuite, je pense que cet écosystème, il est aussi limité par le fait que dès qu'on parle de cloud computing, on a évidemment une domination très forte de la part des hyperscalers. Or, aujourd'hui, la sécurité doit s'appliquer et s'applique beaucoup sur le cloud, forcément. Et là, on est dépendant.
Ouais. Tarek ?
Je crois que le problème est toujours le même. On a beaucoup de petites startups. On a aussi des acteurs de taille moyenne. Comment les faire passer à l'échelle ? C'est-à-dire comment faire pour qu'elles deviennent ces fameuses licornes ? en tout cas ces grandes entreprises de la tech.
Peut-être qu'on va voir un marché davantage se consolider déjà.
C'est possible.
Certainement.
Mais une des choses qui est importante, c'est qu'il y a plusieurs actions. La première, l'État doit participer, donc investir, la commande publique. Ensuite, il faut un système qui permette à ces entreprises de passer à l'échelle au niveau européen. Et puis ensuite, sur un sujet qui est quand même un sujet assez touchy, pouvoir travailler avec les États-Unis où le marché est très gros, ou le reste du monde. Évidemment, ça demande beaucoup d'habileté de la part des entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on va tester, puisqu'on a de nombreuses entreprises qui sont à la limite de la taille et qui leur permettraient de dire, est-ce que je deviens un acteur global ? Comment je deviens un acteur global de la sécurité dans le monde de 2024, hein, parce que c'est vrai que maintenant on est dans un monde très fragmenté, on doit choisir son camp, et ça veut dire travailler avec un nombre d'acteurs plus petits, plus éthiques probablement aussi. Et donc ce sont des questions qui se sont posées pour le cloud, qui se sont posées pour la cyber et qui se posent aussi aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, avec tous les grands succès qu'on connaît dans le domaine en France.
Je voulais qu'on termine, parce qu'on arrive déjà pratiquement à la fin de cette édition, sur cette question quand même des discussions à l'ONU sur la Convention sur la cybercriminalité.
Alors, c'est un vaste sujet.
Elles avancent.
Nous avons, depuis 2019, il y a donc une volonté des Nations Unies d'adopter une convention contre la cybercriminalité. Depuis lors, nous avons eu 7 sessions de négociations, des centaines d'heures de négociations. Une convention devait être adoptée en février de cette année. Et là, il y a eu un échec. Il y a une suspension des négociations. Les États n'ont pas trouvé un consensus sur cette convention, notamment parce qu'il y a la Chine et les États-Unis qui essaient d'inclure dans cette convention un certain nombre de cybercrimes qui viseraient fondamentalement à poursuivre leur opposition, à limiter la liberté d'expression. Et donc là, on se trouve aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement délicate pour les Européens, parce que d'un côté, il y a un besoin de la communauté internationale, des États qui ne sont pas partis à la Convention de Budapest, d'avoir un cadre de coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Et puis d'un autre côté, eh bien, il ne faut pas amoindrir ou atténuer nos protections en matière de droits de l'homme. Et donc, il faut rester très, très clair sur nos lignes rouges à cet égard.
Mais alors, comme Tariq Krim disait, on voit un Internet qui se fracture. On pourrait avoir une cybersécurité, finalement, fracturée, en rester à cet état-là.
C'est vraiment l'enjeu immense. Et c'était sans doute la volonté de la Russie, c'est de fracturer la lutte contre la cybercriminalité en développant deux modèles, en essayant fondamentalement de porter atteinte à la Convention de Budapest, qui est portée par les États de l'Ouest, et de développer une contre-convention. Et c'est tout là l'enjeu aujourd'hui des négociations.
Oui, Tariq Krim.
Non, j'allais dire une sorte de suite globale de la cybersécurité. Mais c'est le véritable enjeu, et là, c'est qu'on a... pendant longtemps, on a pensé que l'Internet était une zone neutre, globale, très utopique, même si on nous l'a vendu comme cela. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un monde fragmenté. Et ce qu'on découvre, c'est que le droit se fragmente, l'Internet se fragmente, et évidemment, la cybersécurité se fragmente.
Merci beaucoup, Tariq Krim de Cybernetica. Merci aussi, Guillaume, de nous avoir accueillis. Je voulais vous donner le mot de la fin, mais on n'a plus le temps.
Non, c'était juste pour rebondir sur ce sujet, c'était le zéro trust. C'est-à-dire, c'est en fait le constat que l'Internet n'est pas sûr, et du coup, c'est tout l'essor de toutes les technologies et l'identification. Ça sera le sujet de l'année prochaine.
Très bien, rendez-vous est pris. Merci, Guillaume Tissier du Forum InCyber et Karine Banelier de CyberAlps. Merci beaucoup.